voix nue. Toute cette semaine, Maëlys Bessery rencontre Noël Mamère. Ce soir, l'entrée en politique, une deuxième vie.
Noël Mamère, on a fait le récit du journalisme et du journalisme engagé que vous avez connu, notamment avec l'émission Résistance. Puis un jour, il y a eu votre entrée en politique. Vous êtes passé du militantisme à la politique. Comment est-ce que ces choses se sont produites? Par quel biais? Ça a été d'abord un biais local?
Oui, bien sûr, un ancrage local. Je suis revenu aux sources, si je puis dire, puisque j'avais quitté Bordeaux en 1977, que ma vie s'est installée ici, avec ma femme qui est originaire du Sud-Ouest aussi, mais qui est maître de conférence à l'université, mon fils qui est né à Paris et qui a toujours vécu à Paris. Et donc, retour chez moi, si je puis dire, en 1988. Ça s'est fait un peu par hasard, en fait. Élection législative en 88, Gilbert Mitterrand, que je connaissais peu, mais que ma femme connaissait bien, parce que quand elle était jeune, comme elle habitait Pau, elle allait en vacances à Osgore, où les Mitterrand passaient leurs vacances aussi. Donc elle connaissait bien Gilbert. Et quelques heures, en fait, avant la clôture des inscriptions pour les législatives, il a téléphoné, je n'étais pas là, c'est Franchon qui était là, pour savoir si si ça m'intéressait d'être son suppléant aux élections législatives. Il savait, j'avais fait savoir que moi j'étais intéressé par un engagement local. Et donc il a saisi ça au vol. Moi je n'étais pas là quand Franchon a répondu. Elle savait que j'avais envie de me lancer. Me lancer n'est pas le bon mot. Que j'avais envie de m'impliquer. Et c'est elle qui a dit oui pour moi d'une certaine manière. Et donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain, en 88, alors que je présentais encore Résistance, je me suis retrouvé suppléant de Gilbert Mitterrand à Libourne.
Dans votre
Libourne, là où habitaient mes parents. Libourne, où mes parents n'étaient plus commerçants, mais famille honorablement connue, plutôt de droite et catho, ce qui était bon pour Gilbert, qui lui était candidat de gauche. Et Libourne étant une ville assez conservatrice, puisque il y a beaucoup de propriétaires de grands châteaux qui habitent à Libourne. Et donc c'était tout avantage pour Gilbert. Et me voilà donc arrivé dans un premier temps à Bègles, sans savoir que un an plus tard je serai candidat à la mairie, mais je me retrouve à Bègles chez un monsieur, Georges Laillère, qui est décédé il y a 2 ans, qui par ailleurs était proche du président de la République, de François Mitterrand, parce qu'il avait contribué à lui faire mieux connaître le Parti communiste français pour mieux le flinguer, d'une certaine manière. Et il s'occupait beaucoup, à la demande du président, de Gilbert. Et donc je me retrouve chez cet homme, chez lequel j'étais venu dans les années 70, mais je ne m'en souvenais plus très bien. Mais là, les souvenirs sont revenus, et c'est effectivement chez lui qu'on s'était retrouvé avec des copains, d'ailleurs qui étaient proches des Lulles, pour essayer de créer un journal qui diffuse des informations que nous considérions comme censurées par Sud-Ouest et qui soit un journal plutôt écolo, ce qui n'a jamais fonctionné. Mais c'était 15 ans plus tôt. Donc je me retrouve chez lui avec Gilbert. Nous allons à Bordeaux chez un photographe pour prendre la photo de campagne. Et nous allons à Libourne. Et j'aime mes parents, mais ils ne sont pas de gauche. Et donc je dis à Gilbert, on va aller dire bonjour à mes parents. Et quand j'ai sonné, quand ma mère a ouvert la porte et m'a vu avec Gilbert entrant chez elle, et quand je lui ai dit « voilà, je vais être suppléant de Gilbert », j'ai cru qu'elle allait s'évanouir, la pauvre femme. Mais je faisais preuve, je ne sais pas si c'est de l'inconséquence, si c'est de l'inconscience, mais je n'avais pas mesuré l'impact de cette décision et de ce choix, évidemment. Les journalistes se sont emparés de cette nouvelle. J'étais pas un suppléant anonyme d'un député lambda. C'était quand même le fils du président de la République.
On pouvait, en 1988, Noël Mamère, être journaliste à la télévision, dans le service public, et être sur les listes pour les élections législatives.
Oui, oui, la preuve, oui. C'est pas ce qu'on faisait de mieux, d'ailleurs. Hein. Mais avant moi, d'autres journalistes ont été candidats à des élections, je pense, il est mort il y a longtemps, à Jean-Louis Le Sen, qui de plus, lui, était, il avait été candidat pour la droite, dans une élection législative, je crois. Et il était en plus au service politique. Moi, j'étais pas au service politique. Je faisais une émission qui était... Mais bon, peu importe, il n'y a pas de justification. La règle aurait voulu que... Mais j'étais pas le seul. Henri Sagnier, qui présentait le 20h, était maire d'un petit village en Normandie, je crois.
Ça vous a pas été demandé? On vous a pas demandé de
quitter? Non, on ne me l'a pas demandé. Mais je pense qu'effectivement, votre question est juste et il doit y avoir une stricte séparation entre les activités politiques et le journalisme, bien sûr. Donc j'ai bénéficié de ça, il faut le dire. Donc 88, il y a des dépêches qui sortent sur notre tandem. J'avais prévenu personne finalement à la télé, hein. Ce qui est quand même incroyable. Mais il faut dire que je n'étais pas réellement dans la rédaction. J'étais dans une émission mensuelle à côté... Et donc j'avais pas pris soin de prévenir les responsables, qui ne m'en ont pas voulu finalement, puisqu'ils m'ont laissé faire.
Et les
j'ai même pu continuer résistant. Les élections se passent très bien, nous gagnons. Je m'entends très bien avec Gilbert, qui est un garçon de bon commerce, un garçon très intelligent, qui me laisse d'ailleurs beaucoup de place dans la campagne. Donc je découvre le plaisir des meetings, des tribunes. Du contact avec les gens, parce que pour faire de la politique, il faut être en empathie avec les gens, il faut les aimer.
C'est les salles, la découverte pour vous, c'est la découverte des salles, puisque le micro, vous connaissiez, les discours, mais là, c'est la salle.
C'est-à-dire que c'est la découverte des autres, la découverte du corps à corps, si je puis dire. Parce que quand vous êtes à la télé, vous êtes filtré par l'écran, vous avez des millions de gens ou des centaines de milliers de gens qui vous regardent, mais vous ne les voyez pas.
Là, vous aviez connu les reportages.
Oui, mais c'est pas du tout pareil d'être sur les plans, sur une tribune avec 300, 400 pendant les présidentielles, ça pouvait être 1000 personnes, et d'avoir en face de vous des gens qui réagissent à ce que vous dites. Et d'ailleurs, moi, bien souvent, dans les meetings, je m'intéressais à celui ou celle que je voyais douter de ce que je racontais. Et donc, mon objectif, c'était que cette personne, à la fin du meeting, elle approuve ce que je dis. Voilà, il fallait la convaincre. La politique, c'est pas l'art de la séduction, contrairement à ce que croient beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques aujourd'hui, vivant influencés par la dérive de la télé, parce qu'ils croient que c'est à la télé qu'on fait de la politique. Non, la politique, c'est l'art de la conviction. Et pour convaincre, il faut du temps. C'est pas en 1 minute 30 aux quatre colonnes de l'Assemblée nationale où vous montrez votre tronche pour réagir à tout et à n'importe quoi. C'est pas là que vous faites réellement de la politique. Ça vous apporte une certaine notoriété, mais ce n'est pas là que vous changez le monde. C'est pas là que vous participez à la vitalité démocratique. Et donc oui, la tribune, j'y ai pris goût, évidemment.
C'est un nouveau plaisir et une nouvelle expérience, un nouvel exercice que celui du tribun.
Ah, c'est un exercice tout à fait différent, bien évidemment. À la télé, vous avez cette adrénaline avant, et puis quand vous faites le journal, donc moi j'avais pas beaucoup de trac, même pas du tout, il y a de la tension. Quand vous montez sur une tribune, il y a une forte tension avant, et alors c'est sans doute, d'ailleurs, votre question est intéressante, parce que il s'est passé pour moi la même chose en politique montant sur une tribune que quand j'entre dans un studio. Quand j'entre dans un studio, plénitude. Tranquille. Relax max, comme dit l'autre. Et quand je monte sur un plat, sur une tribune, j'ai de la tension avant. Mais dès que je suis devant le micro, c'est différent. Je n'ai plus cette tension. C'est pas du relâchement, parce qu'il faut pas de relâchement. Mais je me sens bien. Et donc, ça me donne cette capacité, comme j'ai pas beaucoup d'inhibition, ça me permet de pouvoir parler pendant une heure sans aucun papier, et, en défilant, en déroulant mes idées.
De même que vous étiez ce type-là de journaliste, vous avez ce goût et cette facilité à créer à l'instant, devant le public, à parler sans notes.
Oui, c'est pas à moi de... Oui, je parle sans notes, ça c'est vrai. Depuis longtemps. J'exerce ma mémoire, c'est une manière de lutter contre Alzheimer, sans doute. Donc je recueille des notes avant.
Pas de discours écrit ?
Non, non, non. C'est un peu la difficulté d'ailleurs qu'ont certains de mes copains qui voudraient garder des traces. Donc ça donne de l'humidité, hein, c'est pas la peine. Je sais pas quelles traces je laisserai, mais sans doute pas très grandes. Et je n'écris aucun discours. Donc si on veut garder des traces de mes discours, il faut les enregistrer. Et comme ils sont pas toujours au meilleur, il y a sans doute des bons discours qui échappent à l'enregistrement. Bref, il restera pas grand chose. Oui, c'est un plaisir en même temps que d'improviser. Alors l'improvisation, c'est pas le plaisir d'improviser. C'est à la fois un exercice de style, un exercice, une gymnastique, un effort sur sa mémoire, un effort de concentration sur soi-même, et c'est en même temps la capacité de, parce qu'on n'a pas de papier, de s'évader de temps en temps de ce que l'on a préparé, parce qu'une idée vous vient en parlant, c'est pas l'esprit de l'escalier, mais vous pouvez ouvrir des fenêtres. Et c'est comme ça que, sans doute, vous avez plus de succès auprès des foules quand vous êtes capable non pas de la divertir, de les divertir, mais de leur proposer dans un discours quelques moments...
De la pensée vivante.
De la pensée vivante, exactement. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un plaisir renouvelé. C'est un peu comme quand je faisais des journaux. Oui, j'ai du plaisir à participer à des meetings et à monter sur les planches.
Donc dans cette fin des années 80, vous faites vos débuts sur cette liste, mais Gilbert Mitterrand est élu député, vous êtes son suppléant.
Alors Gilbert Mitterrand est élu député, je suis son suppléant, et suppléant c'est rien du tout, une fois que l'élection est passée, il sert à booster le candidat, c'était mon cas, à le faire élire, c'était mon cas, et puis après on lui dit merci, salut, à bientôt peut-être. Et c'est un petit peu ce que m'a dit Gilbert, il faut bien le reconnaître, puisqu'il m'a proposé pour les élections municipales qui avaient lieu quelques mois plus tard, en 89, d'être 10e sur sa liste aux élections municipales. Donc je savais que mon métier de journaliste, ma carrière de journaliste était quand même sérieusement entamée après les choix que j'avais faits, et que 10e sur la liste, ça n'assurait pas ma survie, et ça n'avait pas d'intérêt. Et c'était pendant la campagne que le même Georges Laillère, qui m'avait accueilli dans sa maison avec Gilbert à Bègles, m'a dit, écoute, voilà, à Bègles, les socialistes considèrent qu'ils sont majoritaires, mais ils sont toujours en association avec le Parti communiste, qui était à la tête de Bègles depuis 30 ans, depuis 1969, et ils n'ont pas la personnalité pour les conduire. Est-ce que ça t'intéresse ? Il m'a dit, de toute façon, t'inquiète pas, tu sais, maire, tu viens une fois par mois. Je connaissais rien, moi. Et donc, j'ai tout de suite dit oui, là encore, par d'inconscience, sans doute, ou d'inconséquence, sans mesurer la dureté du combat qui m'attendait, sa violence, sa brutalité, et j'ai accepté. Donc ça n'a pas été facile pour Gilbert, parce qu'il était premier secrétaire de la Fédération Socialiste de la Gironde, il a été accusé, et ainsi que l'Élysée, ça n'a pas plu à son père, d'avoir monté un mauvais coup contre le Parti communiste pour le virer de la mairie de Bègles. C'était le dernier fief qui lui restait. Et voilà, on a mené une campagne que je qualifierais de sportive, très très dure. Donc moi, j'étais pas un homme de conflit, j'ai appris à les gérer face à cette brutalité.
Démarrer par cette campagne municipale, c'était peut-être le pire de ce qui pouvait arriver à un candidat à une élection municipale.
Alors je ne dirais pas que c'est... Oui, objectivement, c'était le pire. C'est-à-dire qu'on vous plonge tout habillé dans l'eau du bain. Un bain froid et dur. Mais en fait, ça a été une chance. Parce qu'effectivement, j'ai affronté une campagne très très difficile, même y compris avec des brutalités physiques, très dures, mais qui m'a tanné le cuir. Vraiment, au point que aujourd'hui, sous forme de boutade, je dis qu'en politique, il n'y a plus que le froid qui peut me saisir. Parce que les communistes en face de moi, il faut le dire, ils m'ont tout fait. Pas simplement pendant la campagne. J'ai été élu, et après, pendant 2 ans, j'ai vécu des moments très difficiles, parce qu'ils ont essayé de m'intimider, de me décourager, donc avec toute une série d'actions relayées par leurs militants, qui avait pour but de me déstabiliser. Et donc j'ai vécu des moments difficiles, je le reconnais, et je prenais le train avec la boule au ventre quelquefois pour aller à Bègles, mais j'ai résisté. En fait, je savais que je résisterais le soir du premier tour, où j'étais en deuxième position et je pouvais gagner. Mais les communistes avaient très bien compris que je pouvais gagner. Donc il y avait pas mal de télé et de radio qui suivaient cette campagne, parce que sans doute c'était moi qu'on me connaissait. Et les caméras étaient installées dans le jardin de la mairie. Donc il fallait que je passe par la mairie pour répondre aux journalistes. J'avais jamais mis les pieds par respect des républicains, de ceux qui étaient là et dont les électeurs n'avaient pas encore fait le choix. Et quand je suis arrivé devant la mairie, je me souviendrai toute ma vie de cette image. J'avais devant moi une cinquantaine de personnes en demi-cercle, avec des gamins de 7-8 ans qui m'insultaient, la bave aux lèvres. Donc je me suis avancé, je me suis mis en face d'eux, et puis je les ai regardés. Et c'est là que je me suis dit, on peut pas accepter ça, c'est pas possible. Donc il faut que je résiste, il faut que je me batte, il faut que je gagne, pour éradiquer du cerveau de ces petits gamins que l'on oblige à m'insulter pour leur apprendre autre chose.
À quoi ressemblait Bègle à cette époque? À quoi ressemblait la ville de Bègle?
Bègle, c'était une ville c'était une ville sympathique, avec des gens formidables, mais c'est une ville qui était victime de ce que j'appellerais un syndrome des pays de l'Est, c'est-à-dire que toutes les associations, beaucoup d'associations, n'étaient que des arrière-boutiques du Parti communiste français. Donc tout était contrôlé, quadrillé. Et mon principal objectif a été de se débarrasser de ce quadrillage et de rendre leur liberté aux gens. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui auraient aimé s'impliquer dans des associations, ils ne le faisaient pas parce qu'ils avaient peur, d'une certaine manière. Alors, les communistes qui entendront cette émission vont crier, vont lancer des cris d'orfraie, mais c'était ça la réalité. D'ailleurs, la campagne a été tellement violente, le Parti communiste était tellement convaincu que Bègle était sa propriété, que des familles se sont déchirées. Il y a des familles qui restent encore divisées à cause de cet épisode. Donc ça a été un vrai traumatisme à Bègle.
La fin
donc,
du communisme.
Mon rôle, bien sûr, la fin du communisme municipal a été un vrai traumatisme. Et mon rôle n'a pas été de jeter du sel sur les plaies, mais au contraire d'essayer de pacifier. Ce qui explique, par exemple, que je n'ai changé aucun nom de rue, aucun nom d'école. Tout, il y a encore un pont Karl Marx, une avenue Lénine, et ça sera peut-être la dernière ville du monde dans laquelle il y aura cela, mais je ne changerai pas les noms. C'est une continuité républicaine. Et j'ai beaucoup travaillé sur la mémoire, et notamment sur la mémoire ouvrière. Ce qui explique notre fête de la morue, qui est un succès formidable, où je disais, moi je me souviens très bien, quand j'étais gamin, ma sœur Catherine, ma sœur aînée qui était pharmacien, a fait son premier stage de pharmacie à l'issue de ses études à la principale pharmacie de Bègle. Et elle nous racontait quand elle revenait à Libourne, à la maison, que à la sortie des sécheries de morue, puisque Bègle était la capitale des sécheries de morue avec Fécamp, les vêtements des femmes étaient imprégnés de l'odeur de morue. Et d'ailleurs, de Bègle, quand j'étais étudiant, on disait « Oh, Bègle, c'est des rouges et en plus, il pue la morue ». Et donc, moi, je leur ai dit, il faut que vous soyez fiers de votre mémoire. Il faut arrêter de penser que vous êtes des pestiférés. Et donc, vous avez bossé, vous en avez bavé, vous devez être fiers de vos combats, fiers de vos conquêtes sociales, fiers de ce que vous êtes, et fiers de votre mémoire. Et on va la faire, au lieu de la garder entre nous, comme dans un espèce d'isola, on va la faire partager. C'est comme ça qu'est née, entre autres, la fête de la morue. Donc, je travaille beaucoup sur la mémoire, parce que je pense que c'est... Le combat était difficile contre le Parti communiste, mais le Parti communiste a joué un rôle très important, pas simplement à Bègle, dans l'accompagnement, dans la structuration de la société. Et alors il se trouve qu'à Bègle, il y avait finalement, j'allais dire, deux chapelles. Il y avait le Parti communiste français, et puis il y avait les prêtres de Bègle. C'était les prêtres ouvriers, dont certains d'ailleurs étaient sur les listes du Parti communiste, c'était les Fils de la Charité, qui étaient très très impliqués dans le combat social. Et puis il y avait une troisième force, qui étaient les socialistes, des gens de gauche, vraiment de gauche, qui étaient issus de la jeunesse ouvrière catholique, de la JOC, et qui étaient très très actifs, qui étaient à la fois des chrétiens progressistes, et très militants social. Et le seul endroit, c'est ça qui était génial, le seul endroit pacifié, le seul endroit où on oubliait tout ça, c'était Musard, le stade de rugby. Et là, au rugby, on oubliait tout. On restait d'abord béglé pour soutenir l'équipe.
Alors vous devenez maire de Bègles, mais vous n'appartenez à aucun parti politique. Vous avez eu des soutiens régionaux, mais vous n'appartenez à aucun parti politique à cette période-là. Vous êtes ce qu'on dirait divers gauche.
Oui, j'étais qualifié de divers gauche à la préfecture. Ils ont besoin de mettre des étiquettes. En fait, j'étais société civile.
Ce qu'on appelle société civile aujourd'hui.
Oui, je me suis présenté aux élections municipales de Bègles en 89 comme tête de liste d'une liste composée de socialistes, puisque c'est eux qui sont venus me chercher, mais aussi de société civile. Au point qu'aujourd'hui, ma majorité, elle est constituée de socialistes, de société civile et d'écologistes. Et la somme des écologistes et des sociétés civiles est plus importante que le nombre de socialistes. Mais j'ai gardé comme tradition, parce que je suis loyal, la désignation, le premier adjoint est socialiste. Voilà, et donc c'est vrai que je n'appartenais à aucun parti politique quand j'ai été élu maire de Bègles. J'ai créé, avec Brice Lalonde, Jean-Louis Borloo et Haroun Tazieff en 1990, Génération Écologie, en fait qui était une structure politique qui avait été suscitée par l'Élysée et Matignon, par Mitterrand et Rocard, pour faire pièce aux Verts qui cultivaient le ni droite ni gauche à l'époque avec Antoine Wechter. Alors nous avons rencontré du succès, puisqu'en 1992, aux élections régionales, on a fait de très bons scores. Je me souviens, j'étais tête de liste régionale en Aquitaine, et on a réussi à avoir 7 élus, les Verts n'en avaient que 2. Et en 6 sièges pour les écologistes, pour Génération Écologie, et 2 pour les Verts, c'était en 92. Et la réalité, c'est que tout ça s'est terminé en jus de boulin, en quenouille, puisqu'en 93, au moment de l'effondrement de la gauche, Brice Lalonde a choisi de se rapprocher de Balladur. Bon, du coup, j'ai créé une petite structure qui s'appelait Convergence Écologie Solidarité, qui a contribué à rassembler tous ceux qui, à Génération Écologie, ne voulaient pas suivre Lalonde, et aussi de travailler avec la CAP, la Convention pour une alternative progressiste, qui était constituée de dissidents du Parti communiste. Et en 97, on est entré chez les Verts massivement.
L'idée, c'était de créer une structure pour les écologistes de gauche.
Oui, bien sûr, pour les écologistes de gauche. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, écologistes de gauche.
Les Verts étaient ni gauche ni droite. Génération Écologie avait choisi de s'allier avec le centre et la droite. Et l'idée, c'était...
L'idée, c'était de laisser les Verts, que les écologistes soient ancrés à gauche. Et entre-temps, Dominique Voynet l'a emporté sur Antoine Wechter. Et elle a ancré les Verts à gauche. Elle est d'ailleurs devenue ministre de l'Environnement pendant 5 ans. Après la victoire de 1997, la victoire de Lionel Jospin. Et mon boulot à moi consistait en effet, avec cette petite structure Convergence Écologie Solidarité et la CAP, à récupérer un maximum de ces militants qui ne se reconnaissaient plus dans Génération Écologie et qui souhaitaient un ancrage à gauche. Et donc on est entré en 97, on était 850. Les Verts devaient être en 1500 et 2000, donc vous voyez, on est entré quand même assez massivement chez les Verts.
Et donc en février 98, quand vous êtes entré chez les Verts, il y a eu comme une sorte d'alignement possible pour vous. C'était une structure partisane, écologiste, de gauche, et qui permettait de rassembler...
Bien sûr.
Un certain nombre de convictions pour lesquelles vous étiez engagé.
Bien sûr, parce que j'ai toujours pensé qu'on a besoin d'un parti. Il se trouve que je suis entré officiellement chez les Verts en février 98, comme vous le dites très bien, mais qu'entre-temps, j'ai été élu député à l'Assemblée nationale. Je faisais partie des 7 premiers députés écologistes dans l'histoire de la République, avec cette situation effectivement assez cocasse, où sortant du Parlement européen... où j'avais été élu sur la liste de Tapie avec Christiane Taubira et quelques autres. J'avais rejoint le groupe des Verts au Parlement européen 1 an plus tôt, à la demande de Danny Cohn-Bendit, qui a joué un rôle important dans ma vie politique. Et en 97, je suis candidat aux élections législatives dans ma circonscription, là où je suis maire de Bègles. Et les Verts ont refusé de me donner leur investiture au premier tour. Donc j'avais une affiche. Sur mon affiche, il n'y avait pas le logo des Verts, mais le logo des Verts européens. Et comme j'avais fait un bon premier tour, les Verts, toujours courageux, ont accepté de me accorder l'investiture au deuxième tour. Et je suis entré chez les Verts en 98 avec mes copains. Et après, j'ai toujours été candidat des Verts.
La rencontre avec Daniel Cohn-Bendit, c'était pendant cette charnière politique où vous étiez à la fois une personnalité qui devenait une personnalité nationale, puisque vous aviez brigué plusieurs fois le mandat de député avant d'être élu, et vous n'aviez pas encore vraiment de parti. Non, quel rôle il a joué, Daniel Cohn-Bendit, dans votre cheminement politique?
Il a joué un rôle très important d'abord. Il a réussi à me convaincre, ce qui n'était pas très difficile, parce que je ne me sentais pas très à l'aise, même si ce groupe fonctionnait bien. Le groupe des radicaux.
Hein, Énergie radicale.
Il y avait Marco Pannella. Ça ne s'appelait pas Énergie radicale au Parlement européen, puisqu'il n'y avait pas que des Français. Il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols des Baléares, il y avait des Anglais. Donc, on a bien travaillé. Hein, j'ai fait pas mal de choses, d'ailleurs, au Parlement européen. Mais Dany n'arrêtait pas de me dire « Il faut que tu nous rejoignes, ta place, elle est dans notre groupe. » Et donc, j'ai fini... par convaincre mes amis du groupe dans lequel j'étais, qu'il était impossible de me retenir. Donc j'ai adhéré au groupe vert au Parlement européen, ça devait être en 96, un an avant. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup fréquenté Dany, qu'on est devenu des amis, et qu'il m'a beaucoup influencé, oui, bien sûr. Et c'est lui qui m'a dit maintenant, hein, il faut y aller, là, il y a cette opportunité aux élections législatives chez toi, vas-y.
Ça vous avait valu un certain nombre de critiques d'être sur la liste et troisième sur la liste de Bernard Tapie?
Alors je n'étais pas troisième, j'étais cinquième. Je n'étais pas troisième, non. Avant moi, il y avait Christiane Taubira. Je me souviens même de ce coup de téléphone de Tapie. Au début, j'étais quatrième, me disant « Écoute, on vient de découvrir une femme formidable qui vient de Guyane. Personne ne la connaît, mais elle est géniale. Elle s'appelle Christiane Taubira. Est-ce que tu es d'accord pour lui céder ta place de quatrième et être cinquième ?» J'ai dit oui. Et donc j'étais derrière Christiane. On a fait une campagne qui était plutôt sympa, mais effectivement, comme je l'ai dit souvent, comme je crois lui-même l'a répété, j'ai offert ma vertu à Bernard Tapie, qui en échange m'a offert un siège, et ce qui m'a permis de créer Convergence Écologie Solidarité. Je n'en tire aucune fierté, mais je n'ai pas à le renier, parce que je pense qu'un homme politique, il doit montrer tout ce qu'il y a dans son sac à dos, et ne pas jeter sur le bord du chemin ce qu'il ne veut pas montrer. Donc j'ai vécu une expérience qui m'a valu beaucoup de colibés, beaucoup de critiques, même quelques fâcheries.
C'est un regret ?
Bah oui, bien sûr que c'est toujours un regret quand vous avez des gens qui se fâchent avec vous parce qu'ils sont pas d'accord avec le choix que vous venez de faire. Et c'est vrai que l'alliance Tapie ma mère, ça paraissait pas quand même très évident. Il faut bien le reconnaître.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Maïlys Besserie avec Noël Mamère. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Fabien Gosset, réalisation Doria Zénine. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.